Mascorade. Des entretiens proposés par Emmanuel, confiné à Verfeil, sur CFM. Salut, c'est Emmanuel sur CFM pour un nouvel épisode de Mascorade. Aujourd'hui, le 2 avril, j'appelle mon ami Léo, DJ de la scène grenobloise dans les années 2000, actuellement de la scène mahoraise, également prof de maths. Installé à Mayotte avec sa famille, il nous parle de la vie sur l'île, département français dans l'océan Indien. Il raconte également le quotidien du confinement et déploie les sentiments que l'épidémie du coronavirus font naître en lui. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est avec Léo. Salut Léo!
Salut Manu, ça va?
Ça va, et toi?
Ouais, ça va. Bah, comme tout le monde, hein, confinement. Alors moi, j'habite à Mayotte depuis 7 ans déjà. Je suis professeur de mathématiques ici. Je suis venu m'installer en 2013 avec ma femme et mes 3 enfants. Et voilà, on ne s'est plus à Mayotte. Donc, on a acheté une maison ici. On s'est installé ici. Au départ, on était venu pour 2 ans. Et en fait, ça nous a vraiment plu, le mode de vie. Voilà, ça fait 7 ans déjà qu'on est ici.
Ça fait combien de temps que vous êtes confiné?
Le président là, Macron, quand il a annoncé la mesure pour la métropole, ça s'appliquait aussi pour le département d'outre-mer. Donc on est confiné depuis la même date que vous. On attaque la 3e semaine. C'est pas plus mal parce que on va dire que la pandémie elle avait de l'avance en France par rapport à Mayotte, et le fait que la mesure de confinement soit appliqué aussi en dom-tom, ça nous a laissé un petit peu d'avance sur vous, et je pense que c'est bien qu'on ait été confiné au même moment que vous, sachant que le confinement ici, c'est un petit peu compliqué, puisque en fait, quand on a de l'argent, un travail et qu'on a une maison, on peut appliquer ça, mais je veux dire, il y a peut-être un peu moins de la moitié de la population qui vit dans des conditions assez précaires, ce qu'on appelle des bangas, c'est des maisons en tôle en fait. Donc, c'est souvent des familles nombreuses. Et donc, la tôle, on peut imaginer sous les tropiques la chaleur qu'il peut faire à l'intérieur. Donc, le confinement par rapport à ça, c'est compliqué pour eux. Il y a un autre volet qui est compliqué, c'est que vu qu'il n'y a presque plus personne dans les rues, il y avait tout un petit commerce alternatif des gens qui vendaient au bord de la route un peu de légumes, de fruits, pas forcément dans toute légalité. Et ces gens-là ne peuvent plus rien vendre. Donc, ils ne peuvent plus avoir leur petite rentrée d'argent quotidienne. Et donc, se pose le problème pour eux, c'est déjà, avant le coronavirus, déjà de ne pas se laisser mourir de faim. Donc, c'est un peu c'est compliqué ici, la mesure de confinement. Tout le monde ne peut pas l'appliquer comme en métropole, quoi. Ah ouais, puis en plus, ouais, ma femme me souffle que en plus de ça, nous, ici, on n'a pas de cantine dans les collèges, mais on a ce qu'on appelle une collation, parce qu'en fait, c'est des établissements qui sont surdimensionnés. Moi, par exemple, je suis enseignant dans le plus grand collège d'Europe. Il y a 2000 élèves dans mon collège. Et donc, ouais, sur les 2000 élèves, tu as peut-être les 3/4 qui ont une collation. Et ben, ces élèves-là qui avaient la collation au moins une fois par jour, c'était un repas au moins d'assuré. Et là, le problème, c'est que tous ces élèves qui ne viennent plus au collège, ils n'ont plus la collation. Il faut prendre l'école dans son ensemble parce que le primaire est impacté de la même façon que le collège, quoi. Ils avaient aussi des collations et du coup, il fallait nourrir ces enfants. Et donc, ça rajoute encore un peu de complexité à la chose.
De toute façon, on voit bien quand même avec cette crise que les classes sociales, elles jouent énormément.
Ouais, non, mais c'est sûr que même en métropole, le confinement, il n'est pas le même pour tous. Ouais. J'imagine que quand tu es dans un petit appart ou dans un studio ou dans une famille nombreuse, dans un petit appart, ça doit vraiment être compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, tu as quand même l'eau courante dans les bangas. Ils n'ont pas l'eau courante. Certains, ils ont même. Moi, j'ai des élèves qui n'ont même pas l'électricité. Ça m'est déjà arrivé d'acheter une lampe frontale à une de mes élèves, notamment parce que en fait elle faisait pas ses devoirs, donc je l'engueulais, et un jour elle a éclaté en sanglots en disant mais oui, mais moi j'ai pas l'électricité chez moi. Alors je lui ai acheté une lampe frontale, je lui ai acheté des piles, et je lui ai dit cette lampe tu la gardes pour toi, comme ça tu peux faire tes devoirs le soir à la maison. Donc on peut difficilement se confiner quand on vit dans des conditions difficiles comme certaines personnes vivent ici, quoi.
Et tu me disais l'autre fois là que par rapport au système hospitalier, c'est chaud aussi Mayotte. Non seulement il y a ces questions de logement, mais en plus, il n'y a pas énormément de lits en réanimation.
Ben en fait, on avait 16 places, mais on doit recevoir une cinquantaine d'appareils pour augmenter la capacité. Parce que t'imagines, on est 300 000 officiellement, hein, officiellement sur l'île, on est 300 000 d'après le dernier, un petit peu moins d'après le dernier recensement. Mais si on fait, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport à la consommation de riz, qu'ils estiment plutôt à 400 000, 450 000 le nombre d'habitants sur l'île. C'est-à-dire peut-être 150 000 clandestins qui sont pas déclarés, donc qui rentrent pas dans les statistiques, quoi. C'est pour ça qu'on est content que la mesure de confinement ait été appliquée directement ici pour éviter cette propagation, parce que si ça, on en arrivait à une situation comme en métropole, là, ça risque vraiment d'être compliqué. Même avec 60 respirateurs sur 400 000 habitants, là, le choix des médecins, c'est d'une complexité. Et en plus, ça vient se rajouter sur on était déjà dans une épidémie de dingue, nous, cette année. Donc, en fait, là, il y a la dingue et le coronavirus. Et cette année, vraiment, parce que la dingue, on y est confronté un peu chaque année, mais j'imagine que si jamais tu chopes la dingue et par-dessus, tu chopes le coronavirus, là, tes chances de rester en vie, à mon avis, elles sont très faibles, quoi. On était content que le confinement soit appliqué tout de suite parce qu'on a vraiment peur que ça se propage, quoi. On a en plus l'aéroport qui est coupé maintenant, donc en fait on est bloqué sur Mayotte, on ne peut plus partir. On va avoir 66 lits de réanimation, mais si jamais on en vient à, comme certains départements, comme dans le Grand Est ici, ça risque d'être vraiment une catastrophe sanitaire et humanitaire, quoi.
Ouais, à ça rajouter à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux situations économiques, quoi, parce qu'il y en a qui vont pas souffrir du coronavirus en lui-même, mais qui par contre vont être vraiment mal pour se nourrir.
Ah ben oui, c'est ça, hein. Là, comme je disais tout à l'heure, tous les gens qui vivaient un petit peu de leur commerce quotidien, légal ou pas, ben ça leur permettait quand même de rentrer de l'argent et de subvenir aux besoins de la famille. Là, le problème, c'est que voilà, ils peuvent plus vendre leurs produits. Il n'y a plus personne au bord des routes. Bon, déjà, il n'y avait plus de clients parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui se confinent quand même, malgré tout. Et puis même, ils n'ont plus le droit de vendre. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent au bord de la route, la police va venir les déloger et va leur dire de rentrer à leur case, quoi. Donc ces gens-là, ils ont déjà du mal à se nourrir. Et c'est ce qui fait que ça va être leur priorité à eux. Donc impossible à eux pour eux de se confiner, quoi. Ils vont d'abord essayer de trouver à manger pour se nourrir et nourrir leurs enfants.
Et toi, quel impact ça a sur ton imaginaire, cette crise?
déjà la théorie de l'effondrement qui circule un petit peu de partout, et ben ça fait un peu flipper tout ça. Et puis on se pose la question de, est-ce que l'étincelle pourrait pas être justement ce virus, quoi, parce que là ça va foutre un sacré coup à l'économie. Est-ce qu'elle va être capable de repartir? Donc c'est sûr qu'en ce moment on gamberge un petit peu à tout ça, on essaye de se projeter un petit peu vers l'avenir, parce que ça peut aller très très vite, hein. Si jamais la société elle s'effondre, si il y a tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, il va falloir le mettre de côté et repartir sur une nouvelle base. Et c'est forcément les gens qui sont déjà près de la terre, qui seront les plus à même de s'en sortir. Je serais seul, j'aurais pas d'enfant. À la rigueur, je m'en foutrais un petit peu, mais j'ai quand même 3 filles et c'est un petit peu inquiétant, ouais, tout ça. J'espère, c'est que ça va aussi faire prendre conscience aux gens, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer, que voilà, il y a des choses essentielles dans la vie. Il y a des gens qui sûrement ne devaient plus passer de temps avec leurs enfants, ils y sont contraints, et c'est une bonne chose, quoi. Parce que bon, il y a plein de gens qui ont conscience de ça, mais après il faut passer à l'acte, quoi. C'est-à-dire que c'est bien beau de balancer des trucs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais si t'agis pas, à un moment donné, les choses elles évoluent pas. Donc c'est sûr qu'on vit dans un monde où il y a tellement d'aberrations que ça peut pas continuer éternellement comme ça. La Terre elle a pas des ressources inépuisables. Si à un moment donné on réfléchit pas et on se responsabilise pas, et après c'est surtout aux hommes politiques, hein. Mais là, le fait qu'eux-mêmes soient touchés, d'un seul coup, dans cette crise, ça touche tout le monde. Et on le voit, hein, y a des hommes politiques qui partent, y a des personnalités qui sont touchées, qui l'ont chopé, qui décèdent. Donc peut-être que ça servira à faire un déclic chez eux et qu'ils vont commencer à prendre des décisions qui vont aller dans le sens de tout le monde, quoi, et pas uniquement pour leur profit et le profit de leurs amis qui tiennent des multinationales, quoi. Ça me fait flipper parce que là, c'est clair, on a une belle case, tu vois, on a une belle baraque et tout, mais on n'a pas de terrain. Imagine, ça part en couille. Ce que j'ai dit, ouais, aux filles à midi, là, je leur ai dit, écoutez, pour l'instant, ça va bien, papa, il va aux courses, les rayons sont pleins et tout. Mais si ça part en couille, en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus rien dans les rayons, tu vas aller acheter quoi avec ton argent? Tu vas acheter que dalle. Tu vas acheter que dalle, et moi, je ne peux rien faire pousser. De toute façon, ça ne pousse pas en 15 jours non plus, les trucs, quoi. Donc on est vraiment dans un questionnement à se dire, putain, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Est-ce qu'on reste ici? Parce que nous, à Mayotte, pour l'instant, on s'y plaît. Mais si ça part en couille, en mode survie, et ce serait un Mad Max, quoi. Tout le monde essaierait de sauver sa peau, de survivre. Et puis, si tu as ton voisin qui a de l'électricité, des légumes, et que toi, tu n'as rien, mais que tu as une arme, tu vas aller te servir chez ton voisin, et puis tant pis pour lui, quoi. Tout le monde va défendre son champ de bananes, son machin, nanana. Ça va être en mode guérilla, ça va être en mode faut nourrir mes enfants, faut que je trouve à bouffer. Donc, tu sais quoi, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, putain, faut que je me trouve un gun. Non, mais tu vois dans quel délire je suis, quoi. Faut que je me trouve un gun, tu vois, pour protéger ma famille. Donc, voilà, si ça part en couille, s'il y a l'effondrement ici, je me dis clairement que, en fait, l'effondrement, j'aimerais pas le vivre à Mayotte, quoi. Et ouais, c'est un truc auquel on réfléchit. On est en train de se poser la question, est-ce qu'on va acheter un appart pour les études de Emmy dans 10 ans, ou alors est-ce qu'on va mettre une croix sur tout ça et qu'en fait on va s'acheter un terrain avec une source d'eau, une rivière dessus, on va s'acheter des panneaux solaires et machin, et puis on va se mettre à cultiver et à se préparer à ce que certains croient qu'il va arriver. Et il y en a qui pensent que ça va arriver avant 2030, hein, donc c'est là, c'est dans la décennie qui arrive, quoi, tu vois. Donc rien ne serait-ce que se poser cette question là et se dire est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça. On est dans une situation qui commence à nous rapprocher de cette théorie, pour certains, qui est inéluctable. Moi, j'ai encore bon espoir de me dire que ces gens-là se trompent, que tant qu'il y a de l'énergie, tout ça, et que les gens, eh ben, ils vont prendre des décisions, qu'on va faire attention, qu'on va développer l'énergie renouvelable, machin, nanana. Mais après, c'est sûr, il y a certaines personnes qui auront pris conscience. Il y en a d'autres, ils vont passer de la conscience aux actes, c'est-à-dire ils vont décider de vraiment changer de vie, tu vois. Mais c'est pas ces gens-là qui ont le pouvoir, c'est pas ces gens-là qui ont les rênes. Les Bernard Arnault, tous ces gens-là là qui tirent les ficelles dans l'ombre là, tu vois, ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles? Ce qu'ils veulent, c'est reprendre la production, quoi. Tu vois, c'est remettre tout le monde au boulot, c'est remettre tout le monde dedans et allez, on continue. Donc voilà.
Le changement viendra pas d'eux, ça c'est sûr.
Non.
Donc voilà, il viendra de nous.
Ouais.
Yeah.
De toute façon, si on fait rien, c'est clair qu'on fonce droit dans le mur et que malheureusement, notre génération aura pas su faire quoi que ce soit et la génération suivante, celle de nos enfants, je sais même pas s'ils auront le temps de, ben, ils auront même pas le temps en fait de pouvoir agir parce qu'en fait, ce sera déjà trop tard et eux, ils vont vivre soit l'extinction de la race humaine, soit alors une reconstruction avec une nouvelle civilisation, par contre, qui aura pas été sans dommage, hein, parce que là, ça sera avec des centaines de millions de morts, voire des milliards.
Wa zamani mana hiyo rinayo mwilini karishindi witirahi tena leo risitawi wanyuma towa zishikoyi na zishiromani halali ritowe uzone Fawami tirendeni Tijiparan sisi na kori Wala tisi na habari Lada yayo ya maori potoni Narende razine mkodogori Halora si shangirie Halora si shangirie Halora si shangirie
Là, à cette époque de notre vie, je veux dire, on devrait se demander comment on va faire pour financer les études supérieures de nos filles qui arrivent. Bon, on en a déjà une qui a 18 ans. Bon, elle est déjà dans les études supérieures.
Et donc, tes deux filles avec lesquelles vous vivez, elles ont quel âge ?
Salomé a 13 ans et Amy a 9 ans. Bon, déjà, on fait le nécessaire pour les épargner, pour que le coronavirus n'arrive pas dans la maison. Hein. Donc, elles n'ont pas mis les pieds dehors depuis le confinement. Hein. Et moi, je vais faire les courses tout seul. Bien sûr qu'on leur en parle. Et puis, de toute façon, là, dès qu'on, tu vois, on se renseigne, on regarde les actualités pour voir ce qui se passe en France. Donc, elles entendent tout ça. Tout tourne autour du coronavirus actuellement, pratiquement, hein. Même sur Facebook, tout ça. Donc, évidemment qu'elles sont au courant. Là, aujourd'hui, je leur ai parlé de la théorie de l'effondrement. Parce que elle faisait un caprice pour quelque chose et du coup je leur ai dit profitez bien les filles parce que vous savez en ce moment les temps sont durs et on ne sait pas comment la société va évoluer et je leur ai parlé de cette théorie de l'effondrement en leur disant que voilà il y a des gens qui pensent qu'il peut se passer ça et ça et je leur en ai parlé justement à midi aujourd'hui quoi.
Comment elles réagissent à ça?
Avec des grands yeux hein. Ne serait-ce que tu leur dis qu'il y aura plus de, il y aura peut-être plus d'internet parce que plus d'énergie, là c'est la fin du monde. elles sont ultra connectées, même si on essaye de mettre des garde-fous un petit peu et que voilà, on essaye de restreindre ça. Même si on habite à Mayotte, c'est la nouvelle génération quoi, hein, qui a je sais pas combien d'écrans à la maison. Elles ont un téléphone, elles ont une tablette. Salomé et Amy, elles ont toutes les deux leur ordi.
Après, il faut quand même savoir qu'à Mayotte, je dirais que les enfants ont été confrontés souvent à des situations difficiles. On a eu une grève de 3 mois où elles ont dû rester déjà à la maison pendant 3 mois. On a fait l'école à la maison. Donc ça, elles l'ont déjà vécu.
On a vécu des séismes pendant un an. On a eu 1000 séismes en un an. Donc, les tremblements de terre, voilà. Elles ont vécu cette période. En plus, bon, nous, on a eu un cas particulier. C'est-à-dire qu'on a eu le 1er mai 2018, donc genre 15 jours avant que les tremblements de terre commencent. Et le premier, le plus gros, 5,9, quoi, qui a bien fait flipper tout le monde. En fait, on a eu la maison des voisins qui a brûlé et nos deux voisins sont décédés dans l'incendie. Et donc, elles étaient en première ligne. Elles ont vu la maison brûler, même si on les a sorties de notre maison, parce que même pour notre maison, ça craignait. Donc, on a vécu déjà des choses, des situations un petit peu…
extrémistes, ouais, de violence aussi. Voilà, Zoé, bah, ça, c'est notre aînée qui a vécu aussi des intrusions dans le collège par des bandes armées. Donc, des trucs un peu qu'on vit pas quotidiennement, on va dire, en métropole. Mais du coup, les situations d'urgence ou de confinement, elles l'ont malheureusement déjà vécu. Et on va dire, je pense qu'elles relativisent pas mal et que c'est peut-être moins effrayant pour elles, je pense. Les routes coupées pendant 3 mois où ben, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Hein.
Ouais, on a régulièrement des grèves qui se transforment avec des syndicats qui coupent la route. Enfin voilà, ça c'est un bon moyen de faire une pression quand tu réclames quelque chose. Hein. Tu coupes les routes, il n'y a pas 10 000 axes à Mayotte. Donc. Et puis après, le problème c'est que derrière, tu as des barrages de ce qu'on appelle les coupeurs de route qui viennent se rajouter aux syndicats et qui vont couper la route n'importe où, qui vont abattre un arbre devant toi. Toi, tu vas essayer de reculer, il y a un arbre qui s'abat derrière toi et puis après, ils arrivent armés pour te détrousser et ça peut mal se passer, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a déjà vécu ce genre de situation à Mayotte qui fait que bah, les enfants, ça les blinde un peu, on va dire. Donc, elles ont déjà vécu des choses qui font qu'elles sont, elles sont sûrement un petit peu plus fortes que quand tu n'as jamais rien vécu et que tu es toujours dans des draps de soie, dans un petit cocon, épargné par toutes les difficultés de la vie, quoi.
Bon. Comment ça se passe, l'école à la maison à Mayotte ?
L'équivalent bah, d'une semaine de travail par Internet, parce que nous, on a la connexion et on a la possibilité d'imprimer. Après, pour les élèves qui n'ont pas la possibilité d'imprimer, en fait, bah, c'est posé dans les Doukas, les magasins un petit peu à proximité pour que les élèves puissent avoir accès bah, aux cours et aux exercices. Bon, après, je trouve que c'est quand même d'un niveau très bah, du niveau. Donc, est-ce qu'ils pourront être réalisés par les élèves eux-mêmes ? J'ai un doute.
Sans l'aide
d'un adulte, voilà. Au niveau des écoles, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est compliqué de toute façon, dans la mesure où ben, ils ne peuvent pas imprimer, ils n'ont pas accès à Internet. Donc, on laisse du travail, mais est-ce qu'il sera fait c'est toujours la même question. Voilà. Et du coup, on est moi, je suis à la direction d'une école donc de 600 élèves. On est deux, donc on est en télétravail, mais aussi pour tout ce qui est administratif. Hein, mais voilà.
Et qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas ?
Je fais bosser les enfants.
Bah ouais, déjà, ça nous prend un petit peu de temps. Là. On leur fait faire leur devoir. Donc, Amy, qui a 9 ans, qui est en CM1, en gros, elle fait des maths, du français, et puis parce qu'elle fait du piano aussi en dehors de l'école. Donc, elle a aussi ses partitions et ses morceaux qu'elle doit répéter qui arrivent sur Internet. Donc, nous, heureusement, on peut les imprimer. Donc, moi, je m'occupe le plus souvent d'Emmy, je lui fais faire une séance de maths et une séance de français par jour, plus le piano. Marjo s'occupe plus de Salomé. Donc, il faut être à côté. Hein. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on est prof qu'on est exempt des difficultés rencontrées par tous les parents. Hein. C'est toujours plus difficile de faire bosser ses enfants que faire bosser les autres. Hein. Mais Salomé qui a 13 ans, si Marjo n'est pas dans la même pièce, vu qu'en fait, elle suit en même temps les cours du CNED, donc elle a besoin de la connexion à Internet, donc si on n'est pas à côté d'elle direct, elle se reconnecte sur ses sites de manga et compagnie. Et donc Marjolaine elle bosse parce que son établissement va passer en REP+, donc c'est pas mal tous les dossiers des gamins à revoir et tout ça, donc elle a pas mal de boulot, donc elle se met à côté de Salomé, elle bosse à côté, comme ça Salomé est obligée de travailler et puis moi je fais bosser Amy, et puis sinon après on a toutes les petites bricoles, parce qu'on a acheté la maison ici, donc on est propriétaire. Donc, on a toujours du boulot hein, quand on a une maison. C'est sûr qu'il faut avoir de quoi bricoler, hein, mais moi, j'avais plein de petites bricoles que je laissais traîner depuis un petit moment. Voilà, Marjo, elle a repeint toute la palissade. Moi, j'ai installé des spots, des lumières, j'ai réparé des lumières, machin. Et puis, j'ai mes caissons de basse, là. avec le haut-parleur qui est arrivé il y a 2 jours. Donc, j'ai mon 4e caisson à finir. Après, en espérant qu'on puisse le poser bientôt, parce que tu sais, j'ai une association qui tourne carrément bien ici, qui s'appelle Atomix Sound System. Mais on n'a pas de chance, on est vernis cette année. Hein. En fait, le 7 décembre, on avait une soirée qu'on a dû annuler parce qu'on a eu une menace de cyclone. Là, on a annulé une 2e soirée à cause du confinement. Et on a notre festival aussi, le festival Cariboum, en fait, qui est pour la 7e édition. Cette année, en plus, on devait le faire sur 2 jours. Ça devait être le 25-26 avril. Pareil, on avait des frais engagés, on avait déjà 3 billets d'avion payés. Enfin, voilà, on était en train de finaliser l'organisation. Et ben, pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude, quoi. On espère pouvoir le repousser au 30-31 mai, mais on se dit que ça fait quand même un petit peu tôt, parce que même si la mesure de confinement cesse, je ne sais pas quand est-ce que les rassemblements seront autorisés, quoi.
Para hari na hari na wajema zangu na wana nyangu ni wavenza woya ni wavenza ohalisi kweli mahaba wengi tipara Shiha furaha yangu ya daima daima Allah yeah, yeah, yeah. Marahaba watade wangu jilimidi ya halisi kweli Senti dia Ti mi dia mama Malizi na volwa baba Juzi na ona wenze Aida ya tu senti dia
Revenir vers des choses plus essentielles enfin voilà il y a plein de gens qui prennent conscience de ça qui sont enfermés moi je sais pas comment ils font les parisiens quoi tu vois C'est un rythme effréné, c'est dans la performance, on leur demande toujours dans leur métier, surtout dans le privé, hein, de toujours, ils ont toujours des comptes à rendre, il faut toujours faire mieux, faut toujours. Donc c'est une vie ultra stressante et j'imagine que ben, y a bon nombre de maladies comme les cancers et tout ça qui sont un peu liées bon, déjà à notre alimentation, ça c'est sûr, mais aussi au stress inhérent à leur vie quotidienne, surchargée. Prendre la voiture et passer 1h30 ou 2h tous les matins dans sa caisse pour aller au taf, c'est de l'esclavage moderne. Je n'arrive pas à concevoir comme une vie comme ça. Quoi. Tu vois, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses à Mayotte. Je parle de tous ceux qui vivent dans des conditions difficiles, dans l'insalubrité, avec pas l'accès à l'eau, avec des conditions sanitaires difficiles. Ben en fait, c'est ces gens-là les plus costauds. Ils ont des défenses immunitaires qui sont plus puissantes que quelqu'un qui vit dans une atmosphère aseptisée. Et le fait qu'aussi, on ait une population qui est quand même très, très jeune. Mayotte, ça n'a rien à voir avec la métropole. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes. Quand tu sais que on est la maternité la plus productive d'Europe, ici, il y a 30 enfants qui naissent par jour. T'imagines ? On a une population ultra jeune. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour la propagation de l'épidémie. Et les jeunes, même si ça peut arriver, c'est quand même les jeunes les moins touchés et ceux qui ont le moins de complications derrière. Et en plus de ça, Il y a des défenses immunitaires qui sont, à mon avis, costauds parce que, bah parce que on est soumis chaque année à la dengue, on est soumis chaque année, tu vois, bon, il y a le chikungunya de temps en temps, des fois, il peut y avoir un peu de palu, pas d'épidémie pour l'instant, mais voilà. Et puis, on a des staphylos ici, il y a énormément. La population ici est confrontée quand même à des attaques, voilà, de petits organismes comme bactéries, virus environnants, et je pense qu'ils savent se protéger, enfin, leur corps les protège bien parce qu'ils ont des défenses assez costauds. Donc ça, c'est deux des aspects qui me font dire que peut-être qu'on ne va pas arriver à une propagation aussi grave que dans certains pays comme en Italie ou en Espagne. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce qu'on espère, quoi. C'est abusé. La gestion de cette crise par le gouvernement, c'est aberrant. Et en plus, quand tu écoutes les déclarations qu'ils ont au début, tu vois, il y en a qui font des rétrospectives avec des enregistrements et tout, de ce qu'ils disaient au début et ce qu'ils disent après, non, mais t'es mort de rire. C'est des pantins, c'est des girouettes, les mecs, en fait.
Oh, 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 maïléra. Maïléra aussi gentil, ango, maïléré.
Je te rappellerai dans un mois si tout est parti en couille.
Ouais, c'est ça. Ah, on se tient au courant. Si tu me vois débarquer avec ma roulotte.
Hein. Allez, plan. Ben, allez, merci. Hein. Bisous, ciao.
Ouais.
Ciao à toutes et à tous. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode suivant pour parcourir avec nous le monde que nous habitons et les mondes qui nous habitent. Ciao.